Alors, je vais déjà utiliser la minute impartie pour me présenter. Donc, Jacques Fournier, je suis avocat et notaire à Sion, en Valais. Donc, l'essentiel de mon travail est de procéder au règlement des litiges entre les parties en ce qui concerne le règlement des contrats, notamment contrats de bail et contrats de construction, comme c'est indiqué sur la positif. Je suis spécialiste et fais ça en droit de l'immobilier de la construction, donc ça signifie que l'essentiel de mon travail comme avocat se tourne sur ces deux domaines. Et puis, en Valais, nous avons la possibilité de cumuler la profession d'avocat avec celle de notaire, ce qui fait que je suis également notaire du canton du Valais et à ce titre, j'instrumente des actes authentiques qui portent sur l'immobilier. Donc, je rédige des contrats de manière neutre entre deux parties pour régler leurs relations juridiques entre elles. Voilà, donc en ce qui concerne mon thème, la question principale à résoudre dans le cadre de mon thème sera de savoir si la COVID-19 ou la mesure prise sur la base de la lutte contre cette pandémie de la COVID-19 impacte le contrat, en particulier le contrat de bail ou le contrat en matière de construction. Ensuite, comme l'a proposé le professeur Pichonat, adapte-t-on ce contrat et si oui, sur la base de quelles règles? Ayant réfléchi à la manière de présenter cette matière, je me suis dit qu'il fallait d'abord procéder à un inventaire des sources. J'avais peur d'être hors sujet par rapport à certaines de mes sources, mais l'exposé du professeur Flückiger m'a entièrement rassuré quand j'ai vu la multiplicité des différents éléments qui pouvaient constituer le droit source, le droit souple. Je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport à la diversité des éléments de par leur nature et de par les organes qui les édictent dans le cadre de mon exposé. Et puis ensuite, je ferai quelques constats qui relèvent davantage, je le concède, du témoignage que d'un véritable exposé scientifique, du fait que, comme cela a déjà été relevé dans le cadre de cette journée, nous n'avons pas directement de recul pour juger les conséquences de la pandémie, notamment sur les contrats. Là où nous avons un peu plus de recul, c'est que l'agitation du lundi matin 16 mars 2020 m'a fait penser à une autre agitation d'un autre lundi matin, c'est celui du 12 mars 2012. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivent l'actualité juridique en Suisse, que le 11 mars 2012, le peuple et les cantons suisses ont adopté l'article 75B de la Constitution fédérale. Je proviens d'un canton montagnard où la construction des résidences secondaires est un pan important de l'activité économique. Et justement, cet article 75B de la Constitution fédérale interdisait la construction de nouvelles résidences secondaires pour les communes qui comptent un certain pourcentage de ces résidences secondaires dans leur parc immobilier. Et après la stupeur face à l'incertitude juridique, que l'on a également connue le 16 mars 2020, qui était le lundi qui a suivi la fermeture des écoles, des commerces et qui a fait le premier lockdown de la Suisse, eh bien, se sont succédé également en matière de résidence secondaire des annonces et des contre-annonces de droit souple, notamment par les autorités et par les milieux économiques qui ont indiquer comment ils voyaient l'interprétation de cette norme et quels conseils ils donnaient à leurs membres de manière à soit rédiger leurs relations contractuelles, organiser leurs relations contractuelles ou mettre en valeur leurs biens immobiliers pour essayer de profiter de la lacune juridique. Puis, nous avons eu, dans le cadre de ces développements liés à l'article 75B de la Constitution fédérale, comme en matière de lutte contre le Covid, une ordonnance du Conseil fédéral qui réglait très incomplètement la situation, avant que ne tombent les premières jurisprudences du tribunal fédéral, jurisprudences qui ont été suivies par la législation fédérale et par de nouvelles jurisprudences qui impliquent, interprètent et continuent encore ce jour d'interpréter le droit contraignant. Donc, pour présenter mes sources, je vais partir de leur auteur. Et la première personne qui est impliquée est bien évidemment l'organisme fêtier professionnel. Comme cela a déjà été dit plusieurs fois dans le cadre de cet après-midi, les privés peuvent être auteurs de droits souples. Et quand on pense construction et privé, on pense immédiatement aux normes qu'elles soient techniques ou qu'elles soient contractuelles. Et parmi elles, les normes les plus connues de la construction en droit suisse sont bien évidemment les normes de la Société des ingénieurs et des architectes, normes SIA, dont la norme contractuelle, la SIA 118, qui régit le contrat d'entreprise. Donc, j'ai distingué deux manières d'utiliser ces normes dans le cadre de la pandémie, car la norme SIA 118 règle en partie la question de l'imprévisibilité qu'a évoqué Pascal Pichonat tout à l'heure. On est face à une situation inédite qui provoque principalement en matière de construction deux conséquences. La première, c'est un retard sur les chantiers, et puis un retard qui est générateur de surcoûts. Les surcoûts sont liés au retard, mais les surcoûts sont aussi liés à la pandémie elle-même, parce qu'en plus de générer des retards, eh bien, il a fallu prendre différentes mesures de protection imposées par les autorités, notamment pour pouvoir continuer de travailler sur les chantiers. Donc, on peut se poser la question de l'utilisation de ces normes non intégrées, car la norme contractuelle, et c'est important de le souligner notamment pour les auditeurs qui nous suivent, qui ne seraient pas familiers du droit suisse, la norme, pour valoir la loi des parties, la loi le contrat lui-même, doit être intégrée à ce contrat, pour autant qu'il s'agisse d'une norme contractuelle. Elle n'a, si, en quelque sorte, la norme n'a pas directement la force d'un usage. Alors, on peut se poser la question si, dans le cas de la pandémie, on devrait quand même utiliser la norme comme étant cette fameuse loi par défaut auquel les parties se conformeraient. Ensuite, la norme non intégrée peut avoir, par contre, deux rôles en matière de droit suisse, en matière de droit souple. D'abord, une incitation au comportement des membres de l'association qui a édicté cette norme ou du public en général. Et puis, on peut également la considérer, et cela est notamment régulièrement utilisé dans le cadre de la jurisprudence du tribunal en ce qui concerne les normes techniques, comme une règle de l'art qui aurait été, dans ce cas-là, implicitement intégrée au contrat par les parties. À ce sujet, du reste, il faut signaler que la norme SIA 118, par exemple, peut être considérée comme étant intégrée au contrat par acte concluant. Il n'y a pas besoin d'une déclaration de volonté explicite pour l'intégrer. Donc ça, c'est, si on veut, l'activité principalement législative de l'organe fêtier qui a déjà un certain nombre de règles qui sont des normes qui pourraient servir de droit souple pour une base légale pour régler les effets de la pandémie. Et puis, les principales organisations actives dans le domaine de la construction ont fait un pas de plus. Elles ont été, en plus, elles ne se sont pas contentées de présenter des normes, mais en plus, elles les ont interprétées. Ça sous-entend que la norme a été intégrée par les parties, et là, les organes fêtiers ont donné leur avis comment on devait interpréter cette norme dans le cadre de la pandémie. Et je fais référence, en ce qui concerne ces interprétations, à deux. Et puis enfin, on va voir vraisemblablement le droit actuel, donc qu'il soit contractuel, qu'il soit les normes intégrées, interprétées à la lumière de règles de droit souple, comme cela est du reste déjà largement connu dans la pratique actuelle, notamment en droit international. Cela a également été dit durant cet après-midi. Et puis enfin, le dernier acteur important de la justice, c'est l'avocat. Alors, est-ce que l'avocat est susceptible de donner, dans le cadre de sa pratique journalière, un nudge décisif pour que les parties s'accordent? Eh bien, c'est une question qui se résume par deux phrases que j'aime beaucoup et qui reflètent bien l'état de ma profession. La première, c'est une phrase de La Fontaine. Quand on cite La Fontaine en matière de droit souple, on cite souvent le chêne et le roseau. Eh bien là, je vous citerai une autre fable qui est le conseil tenu par les rats, sans y voir une analogie avec les autres membres de ma profession. Mais la cour en conseiller foisonne. Le problème principal de l'avocat est, je dirais, du foisonnement, c'est vraiment le foisonnement juridique en matière de bail et en matière de construction. Parce que sitôt qu'on a une incertitude juridique, on voit se multiplier les avis de toutes sortes et qui sont diamétralement opposés, qui proviennent de milieux d'intérêt très différents, qui viennent donner leur solution, qu'ils présentent comme étant la solution non susceptible de négociation. Et je dirais que c'est un problème parce que cela crispe les positions. Si vous avez une solution mesurée avec une méthode qui est proposée, ça incite les gens à s'arranger. Mais si vous donnez trop vite des solutions, en plus des solutions qui sont diamétralement opposées suivant l'avis de parti que vous faites, eh bien, automatiquement, les gens sont crispés, après, ne veulent plus s'arranger. Parce qu'ils sont persuadés, s'ils ont quelqu'un qui va dans leur sens, au niveau de la solution proposée, eh bien, qu'ils vont avoir gain de cause devant le tribunal. Et donc, c'est vraiment un problème. Et puis, l'autre, la solution à ce problème, eh bien, c'est cette autre phrase que j'aime bien, qui est tirée de Cyrano de Bergerac, qui dit que l'avocat doit travailler dans tous les cas sans souci de gloire ou de fortune. Ça veut dire que l'avocat ne doit pas regarder sa gloriole personnelle à faire exister une jurisprudence novatrice, ou bien il ne doit bien évidemment pas regarder les honoraires qu'il va encaisser par rapport à une cause particulière, mais il doit tout le temps regarder l'intérêt bien compris de ses clients. Et dans l'immense majorité des cas, l'intérêt bien compris du client, c'est de trouver une solution rapide au litige qui l'embête, parce que au niveau global économique, eh bien, il va gagner des relations d'affaires, il va éviter des ennuis, il va éviter des frais de justice, des frais d'avocat. Et je crois que l'arrangement est toujours préférable. Mais pour cela, il faut que l'avocat accepte aussi de se mettre en retrait par rapport à l'intérêt bien compris des clients qu'il défend. Voilà, ceci étant dit, j'en arrive au constat que j'ai pu faire. Quant au contrat de bail, tout d'abord, bien évidemment qu'en matière de bail, l'accord peut intervenir spontanément avec ou sans avocat. Si l'accord n'intervient pas, comme je l'ai déjà dit, le fait qu'il y ait un foisonnement d'avis orientés qui aboutissent à des solutions opposées n'est pas, à mon avis, une solution, une voie susceptible de favoriser l'arrangement. Il a plutôt tendance crisper les fronts et à fonder des demandes en justice vis-à-vis de la dernière instance pour avoir une solution définitive. Une question que je me suis également posée, c'est si la loi en préparation, donc le Conseil national a voté le 29 octobre dernier en faveur d'une préparation d'un projet de loi pour régler certains effets de certains types de contrats par rapport à certains montants déterminés, donc on est bien loin d'un règlement global de la situation, notamment des baux à loyer, mais par rapport à certains cas particuliers, ça pourrait s'appliquer. Est-ce qu'elle est susceptible de favoriser l'accord entre les parties? Je pense que le fait qu'une loi soit en préparation, ça fige plutôt la situation. Les gens ne veulent plus s'arranger. Et puis, au besoin, ils s'accordent pour différer leur arrangement le jour où la loi sera connue. Et puis, bien évidemment, que si on a un coup de pouce de l'autorité étatique qui finance une partie du litige ou qui intervient comme médiateur ou comme conciliateur, eh bien, on peut arriver plus facilement à un arrangement. Enfin, dans la construction, je dirais que je peux moins faire de constats parce que le contrat de construction se déroule sur une plus longue durée et puis les problèmes interviennent en général vers la fin. Et à ce jour, on a encore relativement peu d'expérience sur les surcoûts, du fait qu'on n'a pas les décomptes finaux des contrats, et puis que, bien évidemment, l'entrepreneur ne va pas mordre la main qu'il nourrit pendant le contrat. Et puis, enfin, l'avocat n'est pas nécessaire pour les questions juridiques qu'on a rencontrées, notamment pour les avis que l'entrepreneur peut faire lui-même sans besoin d'un secours juridique. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas eu de vague de résiliation de contrat, notamment fondée sur l'article 373, alinéa 2. Et ce que je remarque également, et je finirai par là, pour rejoindre également le professeur Pichonat dans cette conclusion, c'est j'ai eu un travail important pour réadapter les contrats. Parce que comme notaire, bien évidemment que le problème des délais est un problème important et qu'il a fallu réadapter non seulement les délais d'exécution des prestations contractuelles, mais également les délais des activités qui entourent le contrat lui-même, et en particulier les délais de délivrance des autorisations de construire. Parce que la COVID a eu pour effet non seulement de ralentir les gens qui étaient partis au contrat, mais également toutes les personnes qui gravitent autour, et notamment l'administration. Et le fait d'avoir un permis de construire qui traîne, eh bien, a indéniablement des effets sur le contenu et l'exécution du contrat. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation. Je vous remercie de votre attention et je vous donne ce petit dessin pour vous remercier de votre attention.